Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre. Eva Rock pour un zapping du lendemain où les femmes sont à l'honneur et Bertrand Chamerois pour son écran de veille où Noël est à l'honneur. Et Noël, c'est pas un garçon. Notre invitée, la comédienne engagée pour la cause des femmes, Eva Darlan, pas pour un nouveau feuilleton, mais pour son roman Les Bruits du cœur. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, les nouvelles chanteuses féministes avec Angèle Châtelier et une sélection de bandes dessinées avec Mathieu Charrier. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour.
Content de vous retrouver tous les deux. Bertrand, je commence par vous, c'est le moment de votre écran de veille. De quoi vous nous parlez ce matin ?
Ce matin, je vous propose du rêve, de la féerie. Aujourd'hui, mardi 24 novembre, nous sommes à J-30, J-30 avant le réveillon de Noël. La fin de ce merdier. Oui, parce qu'à un mois du jour J, c'est quand même toujours très flou cette histoire. Cette année, l'esprit de Noël tire la même tronche qu'une bûche glacée au soleil ou qu'un sapin le 10 janvier. Heureusement, ils ont signé leur grand retour. Vous en parlerez demain, Philippe, avec Charles Lecamp pour nous mettre du baume au cœur, les téléfilms de Noël. Ces séries dégoulinantes de Guimauve diffusées chaque après-midi.
Tout de suite, inédit, Noël sous le signe du destin, organisez le Noël parfait.
Noël sous le gui, embrassez l'esprit de Noël.
La chasse au trésor de Noël. Noël à Crystal Falls.
Vous avez remarqué, il faut absolument que le titre comporte le mot Noël, sinon il n'est pas validé par la Fédération des téléfilms de Noël. D'ailleurs, si notre quotidien était un téléfilm, il gagnerait haut la main puisque le titre serait un Noël pour Noël. Et oui, en attendant ce soir 20h et l'intervention d'Emmanuel Macron, la pression et l'incertitude montent un peu plus dans les foyers. Si vous en doutez, il existe un moyen de s'en convaincre. Les questions téléspectateurs de BFM, très bon baromètre de l'inquiétude des gens. En ce moment, sur une échelle qui va de 1 à 10, les Français en sont à « j'ai fini de manger mes rognures d'ongles, j'attaque les phalanges ». Ils posent des questions qu'on n'aurait jamais imaginé entendre un jour à la télé.
Quand pourrons-nous acheter nos sapins de Noël ? Pourquoi lit-on partout que les jouets risquent de coûter plus cher ?
Est-ce qu'il y aura du champagne à Noël ?
Les gens sont à bout. Non mais, et d'habitude à cette période on se demande quel cadeau on va s'offrir. Ouais. Là on interroge BFM pour savoir si on aura du champagne à Noël ou de la Viennetta au dessert. Mais quelle année mes enfants. Enfin rassurez-vous, ça aurait pu être pire, vous pourriez être belge.
La ministre fédérale de l'Intérieur qui estime que la police pourrait, si nécessaire, sonner aux portes à Noël pour vérifier que les citoyens respectent bien les mesures sanitaires.
Mais non.
Il va être sympa le Noël belge. Les enfants, vous avez été sages cette année ?
Oui ! Oh, c'est le Père Noël !
Non, c'est la police. Vous êtes beaucoup trop nombreux autour de ce chapon. Allez hop, ça dégage. Non, vraiment, cette année, les fêtes de fin d'année ont un drôle de goût. Même les pubs de Noël filent le cafard. Avant, elles nous émerveillaient, elles nous faisaient rêver, mais ça, c'était avant.
Cher Père Noël, cette année, c'est un peu bizarre. J'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble autour de la bûche.
Mais quelle tristesse.
Même le petit.
Avant, les pubs de Noël nous faisaient pleurer d'émotion. Cette année, c'est de déprime. Qu'est-ce que c'est que cette pub ? Vous l'avez pas vu ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la pub, les lutins portent des FFP2. Il y en a un qui a de la buée sur les lunettes à cause du masque. C'est tout juste si Rodolphe Lorraine ne se prend pas un test PCR dans son nez rouge. Et la petite fille, elle ne demande pas des jouets au Père Noël, mais elle lui dit qu'elle espère pouvoir voir sa famille pour les fêtes. Oh, ce cafard intersidéral. Et puis elle est sympa, hein, mais c'est pas au Père Noël qu'il faut demander ça. C'est à Emmanuel Macron et son lutin Castex. Alors, les Français obtiendront-ils la réouverture des commerces non essentiels ? Pourront-ils se déplacer à plus d'un kilomètre ? Reverront-ils un jour des films au cinéma ? Devront-ils être munis d'une attestation pour aller manger de la dinde ? Et quelle case le Père Noël cochera-t-il sur la sienne ? Parviendra-t-il à livrer tous les cadeaux dans la limite d'une heure de sortie quotidienne ? Réponse dans Un Noël pour Noël, ce soir, 20h, dans votre télé.
Merci beaucoup Bertrand Chamerois, sous ces illuminations. Merci à Nico Souvent, notre réalisateur, pour ce son. Eva Rock, je me tourne vers vous. Comme tous les jours, vous avez un temps d'avance. Ça va être quoi notre soirée sur nos écrans, une fois qu'on aura écouté le président parler ? Le thème du jour.
Ben on va parler des femmes, de la condition des femmes. Un programme court, une série, un documentaire s'en font l'écho. Le premier est à voir sur le site de TV5 Monde. Ça s'appelle Des filles et des règles. Les règles, vous savez, c'est ce truc qui nous fait saigner quand même les femmes, nous, en moyenne 2500 jours dans une vie. Ce formidable programme court est une discussion entre une Marocaine, une Sénégalaise, une Canadienne et une Française. Elles vont passer en revue les clichés sur ce sujet, évoquent aussi les différences culturelles, religieuses et sociales qui sont liées aux règles. Et il y a un épisode qui est particulièrement savoureux. Celui sur les hommes. L'un a bien voulu se prêter un petit jeu. Le voilà avec des électrodes sur son ventre pour sentir la douleur provoquée par les règles.
Je me suis toujours demandé en fait ce que ma sœur ressentait en fait quand elle avait ses règles.
Là, ça fait mal. Non, ça fait mal.
Il n'y a pas d'antidouleur. Gros respect pour les meufs. Genre, tu vois, elles supportent ça et puis le lendemain, elles vont au travail. Respectez vos meufs, respectez vos sœurs, respectez vos mères. Parce que vous pourrez pas tenir, en fait.
Mais ben oui. Non, vous pourrez pas tenir. Programme très réussi sur le fond et sur la forme, qui est construit comme une discussion sur un réseau social avec des extraits de séries, des reportages, des interviews et la discussion très libre de ces super nanas. Deux femmes, elles seront encore au cœur de la nouvelle série française qui est à découvrir sur OCS, Cheyenne et Lola, avec deux actrices exceptionnelles, Verley Battens et Charlotte Lebon. Première scène, elles sont toutes les deux en sous-vêtements, dans une salle maculée de sang, à elles de récurer à les sols et les murs, à la demande d'un cahier du coin, Yannick.
Tu mets les choses au clair avec Yannick, là. Tout travail mérite salaire.
Il m'a filé 50 balles, si tu veux.
50 balles ? Pourquoi les hommes sont si radins avec nous ?
Cheyenne et Lola, c'est l'histoire d'une amitié entre deux femmes si différentes. L'une est plutôt taiseuse, un peu garçon manqué. L'autre affiche sa beauté et fait preuve d'une plus grande lucidité qu'il n'y paraît au premier abord. Deux femmes qui vont tomber dans une spirale avec meurtre, trahison, trafic et autres galères. C'est une très belle série de Virginie Brac, portée par une réalisation sublime et une très belle musique, comme vous pouvez l'entendre. La scénariste nous a d'ailleurs dévoilé les secrets de cette série dans un épisode du podcast d'Europe 1 Studio, Sériland. Et puis enfin, documentaire choc d'Olivier Delacroix sur France 5 consacré aux violences conjugales. Il part à la rencontre de femmes de tout âge qui ont vécu ce drame, comme Camille, battue de 17 à 22 ans par son premier amoureux. Elle a vacillé, elle s'est retrouvée à la rue, mais elle s'en est sortie.
Mentalement, on est forte. Ça va pas être dur ce que je veux dire, mais on attend juste le dernier coup. On repousse notre mort à demain.
Et puis, il y a les victimes collatérales de ces violences, à commencer par les enfants, comme les filles d'Alison.
Vous demandez surtout si notre mère, elle est toujours être en vie demain. Mmh. Et donc, c'était dur parce que pour notre mère, c'est toute notre vie. Donc, si on était sans elle, on n'était plus rien.
C'est un documentaire très dur, mais qui possède quelques lueurs d'espoir grâce au travail des associations qui aident les femmes et leurs familles et qui surtout tentent de faire évoluer la justice sur ce sujet. Et d'ailleurs, sans doute, après avoir regardé ce programme, serez-vous plus sensible aux signes qui laissent penser qu'il y a de la violence dans un couple. Et surtout, n'oubliez pas la ligne d'écoute, c'est le 3919. Je récapitule, Des femmes et des règles, c'est à découvrir sur le site tv5mondeplus.com. Des femmes fortes, c'est sur OCS avec la série Cheyenne et Lola. Et Des femmes super fortes, c'est le documentaire de France 5 à 20h50. Ils font bouger les lignes.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chamerois. À demain à tous les deux. Et puis dans un instant, on va également parler de violence conjugale avec notre invitée, la comédienne Eva Darlan. On va également parler de son roman Les Bruits du cœur.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Eva Darlan.
Mais bonjour Philippe, je suis tellement contente d'être là.
Un plaisir partagé, on vous a découverte à la télé dans les séries comiques Palace, Merci Bernard. Vous avez tourné avec Lelouch, avec Godard, avec Sauté et même Brian De Palma, excusez du peu. Vous avez aussi repris le rôle de Charlotte de Turckheim dans Madame la Proviseur. Ouais. Mais là, c'est votre activité d'écrivaine dont on va parler. Vous publiez un roman, Les Nuits du Cœur, c'est chez Calman Levy.
Les bruits, hein.
Les bruits du... J'avais écrit Les Nuits, mais c'est Les Bruits, vous avez raison, Les Bruits du Cœur. Je vais justement pas dire ce que sont ces bruits du cœur, mais dire que c'est un roman qui raconte beaucoup de chose. C'est à la fois une histoire d'amitié entre deux femmes et à la fois une descente aux enfers. Qui sont Camille et Marie ? Camille, c'est vous un peu ?
Ah non, c'est moi personne.
Ah bon ?
C'est moi Bovary.
Oh là là, là 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 là. Camille, grande gigue maigrichonne, toujours en mouvement. Elle était trop vive, trop rapide, trop intelligente. Il lui fallait de la nouveauté en permanence et de la stimulation intellectuelle. Elle fatiguait ses camarades, elle fatiguait ses profs, elle savait tout, surtout, et dévorait le monde avec un appétit immense. Cette rousse pétulante. Vas-y, c'est vous, Eva Darlan.
Mais non, mais je ne suis pas maigrichonne, hein. Ouais. Loin de là. Non, non, pas du tout.
Vous êtes une rousse pétulante qui est à 200 à l'heure tout le temps.
Ouais, non, pas tant que ça. J'ai mes petits moments de faiblesse. Hein. Faut pas charrier.
Alors,
puis Camille n'est pas si extraordinaire que ça. Vous m'excuserez, mais quand je parle, je dois parler du menton.
Le masque descend de son nez. Si vous nous voyez sur europe1.fr, vous avez la preuve. Mais alors, je vais dire, nous sommes à 2 mètres de distance. Je dis ça pour les puristes du Covid. Nous avons un masque chacun et il y a même une vitre en plexiglas entre nous deux.
Et je parle du menton, donc ça descend et j'ai le nez qui sort. Comme le capitaine Haddock avec sa barbe.
Mais plus important que Camille.
Camille est peut-être, oui, mais juste pour terminer Camille, Camille est peut-être très intrusive dans son amitié avec Marie. Elle est peut-être celle qui veut absolument posséder Marie. C'est aussi des questions sur l'amitié, hein, ce livre.
Mais il est aussi des questions de possession. Alors, qui est Marie ?
Marie, c'est une fille qui n'a pas eu la chance de pouvoir s'exprimer et se développer telle qu'elle l'aurait voulu. Elle voulait être peintre, elle a fait les Beaux-Arts, elle a réussi brillamment, et elle a jamais pu, parce que ça, c'est la réalité. Il y a 65% de femmes qui étudient aux Beaux-Arts, et ensuite, quand elles sortent des études, il y a 30% de femmes qui exposent.
Qui en vivent.
Qui en vivent, c'est peut-être moins, hein, ouais. Qui exposent. Et les femmes, on les retrouve dans les ateliers, c'est-à-dire chez elles, quoi. Donc voilà, elle se retrouve, elle peut pas en vivre.
Ouais.
Donc elle rentre dans la pub, elle fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Rien ne lui plaît dans sa vie. Elle a des aventures, elle a pas d'amour, elle a un métier, mais elle peut pas s'exprimer. Donc voilà, et ce qui fait que elle est affaiblie par ça. Donc le jour où elle rencontre un très bel homme qui l'a fait rêver.
Je veux dire, je vous interromps à cet endroit-là, parce qu'ensuite arrive une descente aux enfers. Mais d'abord, je me suis dit, c'est une comédie romantique. Je me suis dit, d'abord, elle bosse dans la pub, le patron de l'agence de pub, c'est un connard prétentieux. Puis un jour, en Camargue, elle croise un manindier sur un cheval blanc, je vous ai lu très attentivement. Il suffit qu'elle échange un regard pour que ce dernier l'invite à déjeuner le lendemain, pas n'importe où, un pique-nique sur une plage interdite où lui seul a le droit d'aller. Il arrive en Range Rover, là vous écrivez, la voiture portait les marques des utilitaires, poussière et boue mêlée, rugueux et attirant. C'est pas fini, il va lui pêcher des moules grillées qu'il va faire griller ensuite au feu de bois. Il enlève son t-shirt, il enlève son pantalon, il se jette à l'eau. Marie admire, je vous cite, le corps de l'homme, sa stature, son envergure, sa musculature, 1m80 et 90 kg, superbement répartis. C'est pas fini, dans la glacière. Elle ne trouva que du vin de pays et des tomates de jardin, spartiates mais bio, en circuit très court. Là, on est dans le total cliché du prince charmant. Même dans une pub American Express, il n'existe pas ce mec.
Oui, oui, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir par son
romantisme. Non, mais c'est vous qui essayez d'avoir votre lectrice.
Mais oui, mais il faut du rêve quand même. Et il est merveilleux ce mec à regarder.
Ouais.
Et il l'emmène dans une spirale d'emprise sexuelle qu'elle ne connaissait pas et que peu de femmes ont le courage de dire. Ça arrive malheureusement. Et une fois qu'on a commencé à dire oui, c'est compliqué de dire non. Donc, elle se fait embarquer là-dedans contre son corps défendant, si je puis me permettre. Et voilà, jusqu'à quelque chose d'absolument épouvantable qui lui arrive.
Et comme vous dites cette phrase terrible, comment dire non une fois qu'on a dit oui? Vous restez avec nous, Eva Darlan. Hélène Manarino arrive. Votre portrait inattendu dans Culture Média, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Eva Darlan, elle est romancière, elle est comédienne. Elle a dit chouette quand elle a su qu'Hélène Manarino arrivait.
Ah ouais, j'adore, parce que c'est tellement bluffant ce que vous faites.
J'espère vous bluffer ce matin.
Ah ouais, ne mettez-nous pas la pression. Bonjour Hélène, je ne vous ai même pas salué.
C'est pas grave, bonjour.
C'est à vous Hélène.
Bonjour à tous. Bonjour Eva Darlan. Je suis là donc pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors rassurez-vous, je ne vous appellerai pas Vava. Vous détestez ça.
Ah, quelle horreur.
Voilà, pour prix du cœur. Pourtant, on peut le dire, vous êtes la reine en matière de surnom pour les choisir. Notamment celui de votre chien, Pacha, parce que ce n'est pas un chat, donc vous l'avez appelé Pacha. Pacha qui vous suivait partout, même il y a 20 ans, quand vous étiez sur scène pour la VAR à Marseille, il était venu saluer le public avec une perruque.
C'était votre c'est idée, génial.
J'avais mis une perruque pour saluer, on a salué ensemble.
Et il a toléré la perruque?
Bon, déjà, il a adoré.
Ah, on voit que vous n'avez pas de charme.
Alors, Eva Darlan, vous êtes une femme remplie de bonnes initiatives, de combats et de convictions. Vous êtes surtout habituée à ne rien lâcher depuis l'enfance, notamment lors des moments difficiles en internat. Vos professeurs de français vous ont encouragé à faire du théâtre. C'est pour cette raison que vous avez joué le Cid en 5e. Puis, à l'âge de 16 ans, vous avez mis en scène la peste de Camus dans un club de jeunes à Antony. Déterminée pour parfois sécher les cours, vous étiez capable de demander un mot d'excuse à un passant dans la rue. Quand même, Eva Darlan.
Et les gars disaient d'accord ?
Oui.
Incroyable.
Oui, oui. Avec un petit sourire en coin, comme ça, ils étaient ravis, ravis de pouvoir être rebelles.
Ce qui pouvait vous motiver pour aller en classe, c'était vos profs en chimie. Vous avez toujours été la dernière, jusqu'à ce jour où le nouveau professeur s'est avéré être le sosie de Claude Nougaro. Vous avez tout donné, et quand il est parti, vous êtes redevenue dernière de la classe. Eva Darlan, pionnière.
Mais qui êtes-vous
Parfois, je ne sais même pas qui je suis.
Vous savez qu'en d'autres temps, on vous aurait brûlé pour ça.
Oui, et ben je suis contente d'être en 2020. Eva Darlan, pionnière qui a su révolutionner la tenue vestimentaire vestimentaire des filles à l'école religieuse. Il était interdit de venir en pantalon. Vous l'avez fait. Vous avez été renvoyé. Le lendemain, vous êtes revenu en pantalon, malgré la sanction. Et qu'avez-vous constaté ? Que la plus de la moitié des filles en portaient. Depuis ce jour, elles ont eu le droit de le faire au sein de l'institution. Rendre les femmes libres, voilà l'une de vos priorités. Occupée avec votre correspondante vietnamienne, vous aimiez aussi passer du temps.
C'est grave, hein. Ce qu'elle raconte.
Elle est très forte, c'est pas grave. Vous avez dit chouette, voilà, il faut assumer. Hein.
C'est grave. Vous aimiez passer du temps à écouter du jazz et des Beatles, irrésistible également, une féminité hors du commun, surtout pour votre premier amour, un Italien, rencontré au Touquet. Il venait faire des tournois européens.
Elle revient pas.
De hockey sur gazon.
Oui. Vous ne pensiez pas qu'elle allait sortir l'italien, hein ?
Eva Darlan, femme de caractère avec qui on ne s'ennuie jamais, capable de changer des meubles de place ou de les repeindre à minuit, d'avoir un feeling hors pair pour l'immobilier, regarder les maisons, chercher des locations, savoir quel mur on doit casser pour améliorer l'espace. Vous savez où les choses se placent, ou en tout cas où elles doivent aller. Votre espace est bien rempli, vous ne jetez rien, vous avez presque tous vos objets en double ou en triple, quoi, comme les mixeurs par exemple.
Et oui, ah oui, c'est parce que j'avais deux maison.
Précisons que vous êtes aussi une très bonne cuisinière, spécialiste de l'ail, parce que vous en mettez beaucoup.
Ben, je suis méditerranéenne, ben quand
oui,
même, d'origine espagnole, donc si vous
je
voulez,
sais.
Une journée sans ail, c'est
une journée
perdue.
Triste, hein, ouais. Je suis d'accord. Déterminée aussi pour apprendre le yoga, le pilates, la gym aquatique, la danse classique, l'équitation, l'escrime, tout. Même si vous avez abandonné, au moins vous
tout.
Avez tenté. Vous aimez que les choses évoluent, les pratiques qu'elles avancent pour vous et pour les autres. Eva Darlan, vous savez dominer les règles du jeu, surtout celles du tabou, du Scrabble et ou encore du jeu Les Ambassadeurs. Observez un monde qui change par le biais de la lecture, comme votre livre de chevet, 900 pages sur l'histoire du Congo, ou par...
Là, elle est bluffée.
Ou par le biais de vos voyages, comme il y a quelques années, quand vous êtes partie jouer en Inde, un spectacle sur votre vie, sur la relation homme-femme. Dans la salle, il n'y avait que des hommes. Vous ne saviez pas quoi faire. Vous avez joué sans un bruit dans la salle. À la fin, une petite fille est venue vous voir. Elle était avec son grand-père. Et ce dernier lui a dit, en parlant de vous, « Regarde cette femme, sa détermination, son engagement, c'est une personne formidable. » Une bonne personne. Rajoutons ce matin une personne qui a fait de sa vie un combat.
Les deux, pardonnez-moi, vous êtes toutes les deux au bord des larmes. Reprenez vos...
Ce sont les larmes d'Eva Darlan qui me... Voilà. Rajoutons ce matin une personne qui a fait de sa vie un combat contre les violences faites aux femmes, qui fait bouger les lignes de la condition féminine, qui dénonce, protège et accompagne. En d'autres termes, une très grande femme. Merci, Eva Darlan.
Ça devrait être interdit.
Le temps de sécher vos larmes, réaction ?
D'abord, je suis extrêmement bluffée. Ensuite, je trouve que l'articulation de tous ces secrets est tellement bien faite, c'est tellement joliment fait. Et puis, voilà.
Et puis cette histoire, c'est dingue, cette histoire de cette petite fille qui vient vous voir en Inde.
Ouais, ouais, c'est. J'ai joué un spectacle sur mon corps, un spectacle où je parlais que de cul, hein. Le corps des femmes. Sur le corps des femmes et tout ça, et c'était vraiment très cru. Le spectacle s'appelait Cru et nu, et j'ai joué ça en Inde, qui est le pays le plus violent pour les femmes. Et j'ai joué chez les Sikhs. Pour ce spectacle, j'accueillais les gens. Donc, j'ouvre la porte. Oui, il faut que je sois rapide. J'ouvre la porte et pour les accueillir, je ne vois que des mecs à turban. J'ai dit, putain, ils vont me faire la peau, quoi. Donc, j'ai fait mon spectacle dans le silence le plus total. Et effectivement, à la fin, il y a un mec qui est venu, un Sikh, qui est venu avec sa petite fille en faisant...
Merci,
je parlais de tout.
Eva Darlan. Et merci, Hélène.
Merci
vous avez
beaucoup,
jamais vu
Hélène.
Comme ça, Hélène, pour cette générosité.
Pardon ?
Encore bravo.
Oui.
Vous avez jamais vu comme ça. Elle est encore émue, Hélène. Elle est encore dans sa bulle. Dans un instant, notre première indispensable, une fille, Angèle Châtelier, qui va parler de la nouvelle génération de filles, de chanteuses engagées.
Je ne vais
suite.
Pas m'en remettre.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
On va parler de musique, on va parler de féminité également. Eva Darlan, je vous présente Angèle Châtelier.
Bonjour
Angèle et ses tatouages.
Ah. Bonjour Angèle.
C'est vrai.
Samedi, Angèle, le collectif Nous Toutes organisait une manifestation en ligne pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Demain, Angèle, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et en musique, également, les femmes se lèvent et surtout la nouvelle génération.
Mais oui, et la reine de toutes, bah, c'est bien Beyoncé.
Run the world, girls. Run the world, girls. Run the world, girls. Run the world.
Beyoncé qui a sorti ce tube, un hymne aux femmes, et qui a été aussi une des premières à s'afficher féministe à la télé. C'était en 2014, Beyoncé se produit au MTV Video Music Awards. Elle chante Flawless, son titre, et derrière elle, en néon géant, s'affichait le mot féministe. Drop the bass, main the bass, get lower. Radio say speed it up, I just go slower. I sneezed on the beat and the beat got sicker. Y'all say all on his mouth like liquor. Nous disons aux filles, vous pouvez avoir de l'ambition, mais pas trop. Vous devez viser le succès, mais pas trop, sinon vous menacerez l'homme. Dans cette chanson, Beyoncé intègre une partie d'un discours, celui de l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, un discours au nom équivoque. Nous devrions tous être féministes.
Mais Beyoncé n'est pas la seule superstar à se revendiquer féministe.
Bien loin de là, aux États-Unis, il y a Taylor Swift aussi, avec notamment son titre The Man, pour lequel elle se grime en homme blanc, costard, agressif et imbuvable dans son clip. Running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man.
Mais là, on est loin des chansons féministes des années 60.
Non, les chansons féministes sont pop, revendicatives. Je suis une femme, je l'assume, je le crie. Mais alors rappelez-vous quand même qu'en 1967, Aretha Franklin demandait déjà du respect. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Pense aussi, Philippe, à Cyndi Lauper qui, en 1983, rappelait que les filles veulent juste s'amuser.
Et vous le disiez, Angèle, la nouvelle scène musicale est profondément féministe.
Oui, en France, on l'a remarqué depuis plusieurs années. Déjà, il y a toute une nouvelle scène féministe, à commencer par Clara Luciani et sa Grenade, par exemple. Angèle et son Balance ton quoi, qu'on va écouter. Deux chanteuses qui abordent la puissance des femmes, mais aussi le harcèlement de rue, comme Suzanne dans Salut. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais, souffle. Sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Va-toi fille. Il y a aussi, Philippe, la révélation Loose and the Yakuza. Dans son premier album Gore, elle chante une agression en pleine nuit dans son titre 4 heures du matin. Les diables n'ont pas de couleur, lâchés sont venus à plusieurs. Je n'ai pas vu mes agresseurs, je me souviens juste de leurs odeurs. Où tu te caches, espèce de lâche. Où tu te caches, où tu te caches. Des chansons militantes, engagées, qui en ont marre, des chanteuses qui en ont marre aussi qu'on leur demande de se justifier de leur féminisme, tant cela leur paraît normal. Même si de nombreux combats sont encore à mener, et notamment sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles, le thème de la mobilisation du collectif Nous Toutes ce week-end, puisque Philippe, 80% des plaintes sont encore classées sans suite, selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Merci beaucoup Angèle Châtelier. Réaction, Eva Darlan, et sur la musique, et sur les textes, et sur cette nouvelle génération de féministes.
Oh, elles sont extraordinaires. Ouais. Elles sont extraordinaires. En plus de ça, elles sont belles. C'est des bombes.
Ouais,
et elles disent non. Ça, non. Vous n'avez pas parlé des groupes de femmes.
Il y en a aussi, c'est vrai.
Qui sont extraordinaires.
À qui vous pensez, Eva Darlan?
Je ne me souviens plus du nom.
Il y
nom.
Avait les Spice Girls aussi, au départ.
Mais non, les Spice Girls, ce n'était pas un groupe féministe.
Non, en France, il y a des femmes formidables qui font des groupes. Je ne parle pas de Brigitte, mais je parle, par exemple, la première partie d'Alex Lutz. C'est un groupe qui était extraordinaire, qui était un pissé de rire, qui était extrêmement gonflé, formidable. Donc je ne retrouve pas le nom
on
maintenant.
On va nous retrouver les le nom en régie.
Extraordinaire. Ouais. Et sinon, quoi, qu'est-ce qu'on disait?
Savoir cela vous inspirait, que de nouvelles générations de féministes...
Oh, elles sont
on avait peur que ça s'arrête, il y a le mouvement 68, puis mai 68, et tout d'un coup c'était devenu ringard. Et là, on a l'impression qu'il y a une résurgence et c'est tant mieux.
Extraordinaire. C'est en plus de ça, elles ont réussi à faire que ce soit à la mode. Ouais. Alors ça ne résout pas les choses, mais c'est à la mode.
Non. Et le harcèlement de rue, c'est toujours de plus en plus prégnant, malheureusement.
Oui, le harcèlement à la maison aussi. Je veux dire que tant que le gouvernement ne prendra pas les mesures nécessaires pour former les métiers de loi à l'écoute et à croire les femmes qui viennent porter plainte, on n'avancera pas. On n'avancera pas.
On va parler justement de ce que fait le gouvernement. Vous restez avec nous, Eva Darlan. On va écouter une chanson féministe, Angèle. Mais d'abord, puisqu'on parle de musique, n'oubliez pas que ce samedi a lieu la grande vente aux enchères des vinyles d'Europe 1. Rendez-vous sur artrichelieu.fr pour voir toutes les pépites.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Eva Darlan, les bruits du corps, c'est son...
Du cœur.
Cœur, voyons, je vais y arriver. Une fois j'ai dit les nuits, une fois j'ai dit... Je vais y arriver à la cinquième tentative, je vais la réussir. Les bruits du cœur, et j'ai d'autant moins d'excuses que j'étais en train de le lire. C'est publié chez Calman Lévy. Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour à tous.
On va passer avec vous en revue, non pas le cinéma, les sorties films, mais les sorties BD de la semaine. Et vous allez nous emmener dans les bas-fonds de la ville de New York pour commencer.
Avec New York Cannibal, signé Book et Charine, qui est une suite de Little Tulip, sortie il y a 6 ans. Mais si vous n'avez pas lu Little Tulip, vous ne serez pas perdu en découvrant New York Cannibal. Alors notre héroïne, elle s'appelle Azami, elle est policière à New York, bodybuildée à mort, c'est-à-dire que ses avant-bras font à peu près la taille de vos cuisses. Philippe,
c'est Chabal.
Vous imaginez le reste, pire, mieux, ou voilà. Sauf que, évidemment, pour avoir ce corps, elle prend des médicaments, beaucoup trop de médicaments, ce qui l'empêche de tomber enceinte. Jusqu'au jour où, alors qu'elle course des malfrats dans les rues de New York, Azami tombe sur un bébé abandonné dans une poubelle. Elle le recueille et découvre un vaste trafic de bébés. Ça, c'est la trame de ce polar noir dans les entrailles de la grosse pomme dans les années 90. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport au corps du dessinateur François Bouc, qui nous fait donc rencontrer cette jeune fille gonflée aux stéroïdes, un groupe de cannibales, des tatoués, beaucoup de tatoués, parce que le père d'adoption de notre héroïne tient un salon de tatouage. Écoutez justement le dessinateur François Bouc.
C'était assez percutant visuellement de voir une femme culturiste, en essayant de la faire la plus belle possible, malgré que le culturisme donne des fois des espèces de monstruosité musculaire. Et donc toute l'histoire va tourner vers la conquête de la maternité par une jeune fille. Et donc elle va rencontrer des personnages liés au conte de fées. Elle va rencontrer la femme sorcière, elle va trouver la femme manipulatrice, elle va trouver la mère universelle. Elle va être en contact avec certaines dimensions de la femme.
Et c'est vrai que c'est une BD qui parle aussi de la femme, de la féminité, au milieu de politiciens véreux, déclopés de la vie. Donc vraiment, lisez New York Cannibal, à l'occasion Little Tulip aussi. Pour ce dessin magnifique signé Book, c'est Charine qui est au scénario et ça c'est aux éditions Le Lombard.
Et alors vous nous avez annoncé deux pépites, une pour adultes, une pour enfants.
Alors celle pour adultes, c'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges. C'est une biographie quelque peu romancée d'Anaïs Nin, cette écrivaine connue notamment pour son journal intime qu'elle a tenu pendant des années. Elle qui a grandi entre la France et les États-Unis dans les années 20 et 30, dans cette société patriarcale qu'elle n'a eu de cesse de décortiquer, de dénoncer. Il faut savoir que la version non censurée de ses journaux n'a été publiée qu'après sa mort et celle de son mari, tellement c'était osé. Elle écrivait aussi des ouvrages érotiques. Voilà, c'est une femme, moi je ne la connaissais pas personnellement, et en tout cas elle est à découvrir ou redécouvrir si vous la connaissez à travers cette BD, signée Léonie Biscoff, et c'est publié par Casterman. Et puis pour les ados et les adultes aussi d'ailleurs, chacun aura son niveau de lecture, je vous ai sélectionné cette BD signée Jérémy Moreau qui s'appelle Le discours de la panthère. C'est une sorte de conte philosophique animalier qui nous emmène à la découverte de la création du monde, rien que ça. Alors à travers, pêle-mêle, écoutez bien, un taureau mordu par un varan, une autruche qui se trouve laide, une taupe, un étourneau qui se prend pour une hirondelle, un rhinocéros et un petit éléphant nommé évidemment Babar. C'est plein de poésie, de tendresse, on s'approche des fêtes de Noël, là aussi franchement vous êtes sûr de faire plaisir. Le discours de la panthère, c'est aux éditions 2024.
Et on termine, je l'ai annoncé dès l'entame de cette émission, on termine avec le très attendu nouveau Black et Mortimer.
Eh oui, 27e tome déjà, vous vous rendez compte,
Quelle histoire, la suite
de Londres Septimus. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, celui-là c'était sorti il y a 7 ans. Alors à l'époque, Londres et le monde livré étaient menacés, le monde libre était menacé par Orpheus, c'était une sorte d'engin extraterrestre, neutralisé grâce au sacrifice d'Olric, vous savez, cet ennemi historique de nos deux héros, envoyé par la suite en hôpital psychiatrique. Sauf que Mortimer, en lui rendant visite, se rend compte qu'il existe un deuxième Orpheus, dirigé par un alien, mais qui a l'apparence humaine. Il est fourbe, cet alien. Il est en plus échappé d'un laboratoire. Et les scientifiques lui ont donné le prénom biblique de Moloch, voilà, c'est un album dans la continuité de la saga qui ravira les fans, c'est certain, tirera encore à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, ça marche toujours aussi bien et c'est très bien comme ça.
Ils sont pas morts les dessinateurs de Black Mortimer.
Ah si, ça a été repris plein de fois, bien sûr, c'est toujours l'univers, vous savez,
c'est livres de chevet de mes frères.
C'est ces licences comme Lucky Luke, comme Spirou qui sont reprises et qui durent des années.
Mais longtemps, il y a même des auteurs qui avaient laissé des ordres testamentaires en disant qu'ils voulaient pas que la série ait reprise et quand même elle a quand même été reprise.
Hergé, c'est toujours pas repris Tintin, même si ça le sera un jour.
Ah oui, vous pensez?
Mais oui, parce que ça va tomber dans le domaine public.
Ah oui.
Ça tombe dans le domaine public, vous pouvez plus rien faire.
Eh oui.
Oui, mais est-ce que ça sera au niveau?
Ah, ça, c'est sûrement pas. Voilà. Personne n'est au niveau d'Hergé.
Mais en même temps, ce sera, comment dire, ça trimballe beaucoup de choses désagréables quand même, Tintin, hein, entre le racisme, le sexisme, le tout ça. Donc peut-être ça peut.
C'est la relecture dans le monde d'aujourd'hui.
Ouais.
Évidemment.
Parce qu'après, il faut lire. Il y avait, c'était Historia, je crois, qui avait fait des hors-séries sur Tintin que je conseillais à nos auditeurs, qui réexpliquait comment chaque album avait été écrit dans le contexte de l'époque.
Bien
et donc
sûr.
Qui mettait en perspective aussi voilà, ce qu'était Hergé.
Mais maintenant, c'est un peu.
Certains albums,
C'est pas très digeste.
Oui, Tintin au Congo, ça se relie
pas
un peu difficilement. On est d'accord. Merci beaucoup, Mathieu Charrier. Eva Darlan, vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser. Et vous avez encore surtout plein de choses à dire. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne et romancière Eva Darlan, Les Bruits du Cœur, c'est sorti chez Kalman Levy, c'est un roman. Et justement, votre livre est sorti le jour même du confinement.
Oui.
Et vous avez poussé un coup de gueule à propos des librairies fermées.
Oui.
Vous avez dit, la librairie, c'est pas très dangereux par rapport au Covid. Pourquoi ça vous énerve à ce point? C'était des mesures de santé publique, non?
Non, pas la librairie, ça va, ils se sont emmêlés les pinceaux. Il y en a un qui dit on ferme tous les commerces. Les librairies, oui, on ferme tous les commerces. Oui, mais c'est ouvert ailleurs. Ah, eh bien alors on va tout fermer ailleurs. Ils ne savent pas, ils disent n'importe quoi. Le premier confinement, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est ordre, contre-ordre. C'est ça, on dirait un jeu, quoi. Bon, allez, aujourd'hui, on ouvre ça. À Monoprix, il y a un type qui devient fou. Ça fait déjà 12 fois que je change tout. Je mets des barrières, je les enlève. J'interdis les culottes. Le lendemain, on peut vendre les culottes. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Les livres, c'est ça, mais c'est n'importe quoi. Comme s'il y avait de la cohue chez les libraires. Les gens sont raisonnables. Il n'y a pas de respect de la personne en la pensant responsable de ses actes. Alors, soyez gentils, allez dans les librairies, mais allez-y doucement, etc. Mais on laisse ouvert. Voyons, c'est la culture, les théâtres, les cinémas et tout ça. Je veux dire, il n'y a pas eu un mot sur la culture depuis le début de cette épidémie. C'est une honte absolue sans culture. Une société s'écroule, on le sait, ça. Donc,
il y aura peut-être un mot ce soir, parce que le président Macron doit parler à 20h.
Bah, il serait peut-être temps. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard? Enfin, je veux dire que les artistes ne comptent pas.
On parle du confinement. Vous avez pris la parole et vous avez dénoncé les conditions de plus en plus difficiles à cause de ce huis clos imposé pour certaines femmes.
Bah, c'est de plus en plus difficile pour les femmes et pour les enfants. On sait bien qu'il y a des enfants qui sont morts. Ils sont morts. Il y a des qui ont été tapés par leur père et qui sont morts dans le premier confinement. Il y a des enfants morts.
Il y a malheureusement des enfants morts tout le temps. Vous avez j'ai pas vu de chiffres là-dessus. Il y a eu davantage malheureusement d'enfants morts.
Il y a davantage d'enfants. Il y a davantage de femmes. Il y a évidemment quand on met un fauve enfermé avec sa victime, qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe? C'est quelque chose, c'est absolument aberrant. Puis ils ont relâché en prison les petites peines. Dans les petites peines, parce que c'est pas très important, ben on va sortir.
Ce que vous dire, on a relâché, ils ont vidé les prisons au moment du confinement.
Oui.
Et ils ont relâché en priorité ceux dont les peines étaient les moins longues. Et vous dites que parmi ceux-ci, il y a des gens qui...
Des hommes violents et des violeurs, voilà, qui sont retournés voir leurs victimes. Comme il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise en compte et de prise en charge de l'interdiction absolue de prendre contact avec les femmes qui ont porté plainte, etc. Je veux dire que c'est toute une stratégie, c'est une politique. C'est une politique, c'est une volonté politique. Alors, est-ce qu'on a la volonté politique que ça s'arrête ou est-ce qu'on a la volonté politique de ne pas intervenir? Eh bien là, il y a une volonté politique de ne pas intervenir.
Alors, le pensez vraiment?
Oui, je le pense vraiment.
Parce que là, ça va faire bondir les gens qui sont dans l'exécutif, l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes qui était Marlène Schiappa.
Mais elle sait. elle sait. On sait l'une et l'autre ce qu'on pense de l'une et de l'autre.
Moi, je sais ce que vous avez dit. Vous avez dit sur elle, c'était en septembre 2019, elle s'agite, elle cristallise les colères, elle ne se bat pas, elle n'a aucun pouvoir décisionnaire. Combien même n'aurait-elle pas de pouvoir ? Vous ne pouvez quand même pas l'accuser de ne pas être de bonne foi et de ne pas avoir agi pour la cause des femmes.
Je ne sais pas, quand elle se trompe dans les chiffres, est-ce qu'elle est de bonne foi ? On va dire oui, elle se trompe, hein, d'accord.
Non, mais sur l'enjeu, tout le monde s'est déjà trompé une seule fois. En tout cas, pour vous donner raison, Eva Darlan, c'est un papier de l'AFP la semaine dernière à propos des violences conjugales. Il y a une hausse de 15% des signalements en ligne depuis le confinement. Demain, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, va lancer une grande campagne de mobilisation de lutte contre les violences conjugales, avec notamment des spots avec des personnalités comme Harry Roselmack.
Ça ne sert à rien, ça. Ça va 5 minutes.
Pourquoi ?
Parce qu'il faut former, les métiers de loi. Il faut simplement, les lois existent. Il faut juste les appliquer. Il faut mettre les bracelets, il faut écouter les femmes, il faut mettre un tribunal exprès pour les violences conjugales. Je veux dire, tout ça, on sait ce qu'il faut faire. Si ça n'est pas fait, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent magique. On a bien vu avec la pandémie qu'il y avait de l'argent magique. Donc c'est une volonté de ne pas faire.
Je vais rappeler, il y a une ligne téléphonique dédiée, le 3919 et aussi le 114, qui permet des signalements par SMS. C'est un cotter sur une jambe de bois ou c'est vraiment utile ces numéros ?
Non, c'est utile, il faut le faire, bien évidemment. C'est utile. Et je dois dire que la seule utilité que j'ai trouvée à ce fameux Grenelle sur les situations des femmes et la violence, c'est qu'on en a parlé. Voilà. Donc, bien sûr, les spots, ça coûte très très cher. Pourquoi ils ne mettent pas cet argent-là à faire des hébergements dédiés aux femmes et aux enfants ? Voyons, ça coûte beaucoup d'argent. Je trouve ça, c'est incohérent et c'est surtout, encore une fois... Alors, j'espère que Mme Moreno va nous dire on va faire ci, on va faire ça, mais des promesses, on en a entendu depuis tellement de temps, depuis tellement d'années. On sait exactement ce qu'il faut faire, faites-le. Le dites pas, mais faites-le.
Merci beaucoup, Eva Darlan, Les Bruits du Cœur. Là, c'était le son d'Eva Darlan, Les Bruits du Cœur. C'est un roman, c'est chez Kalman Lévy.
Et c'est vachement bien. Je vous jure que c'est un livre formidable parce qu'il parle d'une femme qui tombe, qui va jusqu'à la déchéance. Et parce qu'elle rencontre, elle accepte à un moment de rencontrer une main tendue et qu'elle va prendre, qu'elle va suivre et qui va... enfin lui permettre d'être ce qu'elle est profondément. Et elle va enfin s'épanouir.
Moi qui ai lu ce livre, d'abord je suis d'accord avec vous, et vous n'imaginez pas le bonheur d'entendre cette sincérité, d'avoir un auteur qui dit de son livre, c'est vachement bien. Merci Eva Darlan d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média, j'espère que ce sera vachement bien. On sera avec la nouvelle offre du journal Ouest France pour les 18-25 ans. On sera avec le rédac chef et la rédactrice en chef Caroline Tortelier et François-Xavier Lefranc, et puis le chanteur Jérémy Frérot des Frérot de la Vega pour son nouveau single. Oula, écoutez pas le titre du single, Eva Darlan.
Vas-y.
Ça s'appelle Un homme. Elle me dit vas-y.
Un
juste
homme,
après
j'adore.
Le flash, vous retrouverez Anne Romanoff dans Ça fait du bien. Merci encore, Eva Darlan, d'avoir été avec nous. Merci, salut, à demain.
Merci. Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.